ça tombe bien. Schiste offre l'émission Les Affamés tous les jours en semaine de midi à 13h. Au menu, entrevues, actualités, débats et chroniques.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Savais-tu que les employeurs sont prêts à t'offrir, dès cet automne, un stage ou un emploi pour plus tard dans l'année? Intéressant, non? Ne manque pas ta chance. 170 employeurs seront rassemblés au pavillon Desjardins pour le Carrefour de l'emploi. Le mercredi 2 octobre prochain, viens les rencontrer entre 10h et 16h et trouve dès maintenant ton stage ou ton emploi en fonction de tes disponibilités.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Plonge tes oreilles dans la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Chiz 94.3.
Ta référence musicale dans la vieille capitale.
Passe devant, c'est bien fait. Le tir est le bon.
Ce vendredi et samedi, c'est le week-end d'ouverture à domicile pour Fort Rempart de Québec. Pour l'occasion, les Huskies de Rouyn-Noranda seront les visiteurs au Centre Vidéotron. Vendredi, soyez à l'écoute dès 18h30 pour l'avant-match avec Rick Loutier. Et ce samedi, c'est à 15h30 que ça débute. Le week-end d'ouverture de Fort Rempart de Québec, c'est sur les ondes de Chiz 94.3 que ça se passe.
Bienvenue à votre émission Question de savoir. Bonjour à tous. Qu'est-ce que c'est Question de savoir? C'est votre émission sur les cycles supérieurs à l'Université Laval. Je m'appelle Louis-Philippe Tremblay. Je suis attaché aux communications à l'Allier. Qu'est-ce que c'est l'Allier? C'est l'association de tous les étudiants et toutes les étudiantes de l'Université Laval qui sont au deuxième et au troisième cycle. Aujourd'hui, nous vous parlerons encore une fois de la campagne Vote sans perdre connaissance. C'est une campagne donc qui vous présente sous trois thématiques les thématiques qui sont la recherche, l'inclusion, et l'environnement. Plusieurs revendications qui vous invitent à analyser la campagne électorale fédérale sous les angles de la création de la connaissance, donc vraiment de créer du savoir, mais aussi qui invite les futurs élus à écouter ces créateurs de connaissances là. Aujourd'hui, on va justement aller un petit peu plus en détail dans la thématique de la recherche. Et pour parler de recherche, quoi mieux que des gens qui font de la recherche? On a vraiment beaucoup de gens autour de la table. C'est le fun parce qu'on reçoit des membres de l'Allier. On reçoit souvent les membres de l'exécutif de l'Allier qui sont aussi membres de l'Allier. Mais c'est le fun aussi de recevoir des membres qui sont en dehors de notre petit microcosme. Tout d'abord, Karine Denis qui est avec nous. Salut Karine.
Bonjour.
Cécile Gagnon qui est avec nous aussi.
Bonjour.
Et Pascal Lavaux-Allard. Salut Pascal.
Bonjour.
Et je suis en compagnie de mon collègue aussi, Jérôme Lizotte, qui est attaché à l'exécutif à l'Allier.
Bonjour, je ne fais pas de recherche.
Moi non plus, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on vous invite, on a invité ces trois personnes à venir nous parler justement de recherche. On va parler un petit peu de nos revendications. En fait, ce qu'on a le goût de discuter avec vous, c'est vos expériences en tant que chercheuse. Moi, Jérôme, on va rebondir un peu puis à vous parler un peu des revendications qui sont dans le cahier et dans la campagne Vote sans perdre connaissance. D'ailleurs, tout ça, vous pouvez les trouver, les informations un petit peu plus en détail sur le site de l'Allier, allier.ulaval.ca/élections. Avec un S 2019. On va commencer par faire un petit tour de table parce qu'on s'intéresse toujours à qu'est-ce que vous faites comme recherche. Là, au début, je leur dis, là, il faudrait essayer de l'expliquer puis tu sais, pas trop prendre de temps, mais je sais que ça vous passionne. Allez-y. Vous avez l'espace pour parler de vos recherches. Parlez-en, ça nous intéresse en plus. On va commencer avec toi, Karine. Toi, t'es en études littéraires.
Oui, exactement.
Et sur quoi portent tes recherches? T'es rendu où dans ton parcours
scolaire? Moi, je suis à la maîtrise en troisième année à peu près, okay, avec une sabbatique.
On va parler d'ailleurs de ça, la troisième année.
oui, et je travaille beaucoup sur, en fait, l'appropriation et l'adaptation culturelle dans la fantasy jeunesse contemporaine, spécifiquement la représentation de figures héroïques du passé médiéval d'une culture qui est étrangère dans une culture d'emprunt. Concrètement, en fait, c'est vraiment sur la représentation des samouraïs dans la fantasy occidentale d'aujourd'hui et en même temps la représentation des légendes arthuriennes dans la culture contemporaine du Japon.
Donc, un genre comme de croisement.
Exactement.
Wow. C'est donc intéressant. Cécile, de ton côté, toi, tu es en philosophie?
Oui, je suis à la maîtrise. En fait, je suis en deuxième année à la maîtrise en philosophie. Je travaille sur les éthiques du care et les théories féministes de la justice. Donc, en fait, pour faire ça très rapidement, j'essaie de proposer une théorie relationnelle et contextuelle de la justice pour qu'on puisse revoir la division du travail, mais dans la sphère domestique, qui souvent est ce qu'on pense être la sphère non politique, mais montrer que puisque la division du travail invisible et de la charge mentale présentement crée des injustices économiques, politiques, culturelles, on a besoin d'une théorie politique capable d'aller revoir la division du travail dans la sphère privée. Donc, c'est là-dessus que je travaille dans mon mémoire.
Wow, c'est tellement de la... Vous êtes structurée, j'adore ça. Vous êtes vraiment bonne. Et ça a l'air très intéressant aussi, Cécile, sur quoi tu travailles, évidemment. Pascal Lavaux-Allard, toi, tu es en économique, c'est ça?
Oui, je suis à la maîtrise en économique avec mémoire, parce que nous, on a le choix de faire de la recherche ou non à la maîtrise en économique. Mm-hmm. Puis j'ai choisi de m'intéresser aux déterminants des coûts de santé chez les femmes enceintes de la région de Montréal. Donc, c'est à savoir... On analyse un peu statistiquement c'est quoi les principaux déterminants socio-économiques, démographiques et cliniques qui impactent la durée de séjour des femmes lors de leur séjour postpartum, puis aussi comment est-ce que ces différents indicateurs-là peuvent se refléter sur les charges hospitalières qui sont couvertes par l'État.
Super, merci beaucoup, Pascal. Des sujets tellement intéressants. Moi, à chaque fois que je rencontre des membres puis que je vous écouterai parler de vos recherches pendant des heures. Mais là, on va parler un peu plus justement de ça de façon macro. Donc, de se lancer dans la recherche, de se dire, OK, c'est beau, je m'en vais, je fais de la recherche, je me lance, je vais faire un mémoire de maîtrise pour votre cas. Mais c'est aussi, le même processus quand on se rend à faire un doctorat. Est-ce que c'est facile de se lancer, de se dire « on y va », ce petit coup-là? Là.
C'est facile de s'inscrire. C'est plus difficile de construire son projet de recherche.
OK.
Puis d'arriver à quelque chose dont tu peux être fier après. Tu peux dire « ah oui, ça c'est concret, ça je sais comment je fais, je me lance dedans ». C'est une étape qui est plus difficile à rejoindre, mais une fois que tu l'as rejoint, ben tu peux te dire, du moins à la maîtrise, que tu es déjà à peu près à la moitié du chemin de fait.
Mm-hmm. Vous, de votre côté, ouais?
Ouais, ben je pense qu'en fait, la première barrière qu'on part d'un baccalauréat puis qu'on veut se lancer dans une maîtrise, ça va être un peu comme le syndrome de l'imposteur où tu vois tous les enseignants qui sont autour de toi, les professeurs, tous les étudiants gradués, puis dire, oh mon Dieu, ils font des trucs tellement intelligents, comment moi je peux le faire? Puis souvent, puis là, c'est pas pour embarquer directement ou pour le plugger, mais souvent, le financement à la recherche est comme le bon, la bonne tape dans le dos dont tu as besoin parce que tu dis, mm-hmm, OK, il y a des gens au moins qui pensent que je suis capable de le faire. J'ai un directeur ou une directrice qui va être capable de m'encadrer. Donc, souvent, c'est ce genre d'encouragement-là qui te pousse parce que sinon, ça a l'air tellement gros. Puis souvent, ben je sais pas, ça dépend tout le temps pour chaque personne, mais moi, je suis dans un domaine où il y a très peu de femmes puis encore moins... d'études féministes. Donc là, te dire, est-ce que je suis dans la bonne place? Donc, le genre de syndrome de l'imposteur où tu te sens vraiment petit dans tes shorts avant de te lancer. Là. Donc, souvent, tu as besoin d'encouragement extérieur. Là.
Mm-hmm. Puis, ben justement, une fois que la décision est prise, on s'est lancé, tout ça, ben là, tu as commencé un peu à en parler, les freins ou les choses qui facilitent un peu aussi la poursuite ou justement de se lancer là-dedans. Avez-vous des points là-dessus un peu sur qu'est-ce qui peut faciliter, mais aussi freiner la poursuite ou l'engagement dans une recherche, par exemple?
Bien, moi, dans mon cas, je fais des études qui sont plus appliquées. Donc, on travaille sur des données. Fait que c'est sûr que l'accès aux données, dans le contexte où on vit actuellement, où la sécurité des données est super importante, mais aussi où, je pense que ça fait partie de votre plateforme, qu'on veut donner le plus possible libre accès, mm-hmm, au savoir qui se développe. C'est comme un arbitrage qui est vraiment difficile. L'accès aux données, ça peut prendre des semaines, des mois, parfois jusqu'à un an s'il faut passer par la commission d'accès à l'information. Dans mon cas, j'ai été comme un peu chanceuse. J'avais des contacts qui avaient des contacts, puis on a comme passé par la voie d'en arrière. Mais faire une demande d'accès aux données en bonne et due forme, ça peut ralentir énormément les processus de recherche. Puis ça ralentit aussi énormément les processus de demande de financement.
Justement, Jay, peut-être tu peux rajouter là-dessus un peu sur la revendication. Nous, on parlait du libre accès aussi. C'est pas normal là, qu'on ait à devoir passer par la porte en arrière puis d'avoir des contacts pour mener à bien sa recherche.
Ben, tout à fait. Nous, ce qu'on demande vraiment pour le libre accès, c'est que il existe des dépôts institutionnels dans les bibliothèques universitaires qui font des publications en libre accès. Toutefois, ces dépôts institutionnels, ces bibliothèques-là ont un manque de ressources. Par exemple, ici à l'Université Laval, il y a une personne qui est responsable au libre accès pour une université de 45 000 étudiants. Donc, c'est comme ça ici, c'est pareil ou pire ailleurs, c'est sûr et certain. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est vraiment que les organismes subventionnaires fédéraux, qui sont les instances qui financent la recherche et qui financent la recherche au Canada, donne du support, que ce soit de ressources, que ce soit financier, que ce soit technique, pour justement développer ce réflexe-là de libre accès et qu'on n'ait plus besoin de payer des abonnements ou de faire des demandes à l'information qui ont pas de bon sens.
Si on continue dans les freins, justement, là, tu en nommais un, Pascal, je ne sais pas si vous vouliez ajouter d'autres choses.
Ça, c'était une demande extrêmement pertinente, le libre accès, parce que, bon, nous, on ne travaille pas en littérature avec des données, nécessairement, mais on est extrêmement dépendant des livres et des articles qui sortent. Pas de bibliothèque et pas de ressources dans la bibliothèque, ça veut dire que nous, on n'a plus de travail, on n'a plus de matériel, puis c'est extrêmement difficile. Et le moindrement qu'on commence à sortir des sujets, disons, normaux ou plus habituels. Par exemple, pour l'Université Laval, c'est vraiment la littérature québécoise. Mais dans mon cas, je travaille beaucoup sur la culture japonaise. Je vous dis que c'était toute une aventure de trouver mes informations, de trouver des chercheurs qui travaillent là-dessus et surtout d'avoir accès à leurs travaux publiés parce qu'il y en a plusieurs que j'ai dû abandonner parce que j'avais pas les ressources, la bibliothèque n'était pas abonnée. Et t'as beau remplir les formulaires de la bibliothèque de demande d'abonnement à certains magazines, ça veut pas dire qu'ils vont le faire.
C'est vrai que ça peut être un frein énorme. Puis le modèle en ce moment de publication scientifique est basé sur des abonnements qui coûtent quand même assez cher et l'université doit faire des choix. Et c'est 2-3 ans qui est arrivé. La bibliothèque a dit bien, écoutez, on peut pas toutes les avoir, donc ils sont désabonnés à ceux qui étaient le moins consultés. Mais si ça arrive qu'un ou une chercheuse a besoin de celle-là, ben ça peut être un frein quand même substantiel.
Oui, puis ça revient aussi à la création du savoir aussi, de hiérarchiser comme ça. Oui. Tu sais, la recherche est faite pour créer des savoirs, mais c'est pas parce qu'un savoir est moins populaire qu'il est moins important. Voulais-tu ajouter quelque chose, Cécile?
Ben moi, je pensais, quand tu voulais nous relancer sur un autre frein à la recherche, je crois qu'il y en a un qui est comme l'éléphant dans la pièce, mais c'est l'argent qui est le nerf de la guerre.
J'y allais, là. J'y allais pas.
moi, j'ai la grande chance d'être financée pour mes recherches, mais si je me compare à mes collègues chercheurs-chercheuses, c'est ce qui fait toute la différence. Pouvoir m'être concentrée, moi, à temps plein cet été pour écrire mon mémoire, travailler sur des articles avec des collègues chercheuses, versus mes amis qui ont travaillé à temps plein puis qui étaient comme, quand j'arrive le soir, je suis pas la tête à faire de la recherche. Quand la session commence, ils doivent prendre plusieurs contrats, que ce soit des contrats de recherche ou des contrats à l'extérieur de l'université parce qu'ils ont besoin d'argent, parce qu'ils n'ont pas de subvention. Ben, c'est qu'une maîtrise qui, normalement, entre guillemets, dure 2 ans, va s'étaler sur 3-4 ans et va devenir encore plus cher à faire. Donc, c'est vraiment, je pense, un des plus gros freins aussi, c'est le peu de financement parce que là, c'est des excellents dossiers qui ont du financement, mais des très, très, très bons dossiers où des gens qui n'avaient pas eu la chance d'avoir des excellentes notes au bac, ben là, sont freinés pour le reste de leur recherche.
Puis même ceux qui reçoivent du financement, par exemple, des boursiers du CRSH ou du CRNSG, je me rappelle plus trop pour les sciences du génie, mais même eux, tu sais, à la maîtrise, on a une année. Mais en une année, t'as pas vraiment le temps de faire toute ta recherche et en plus de rédiger ton mémoire à temps plein, peu importe le temps que tu veux prendre, c'est extrêmement difficile. Puis après ça, ben, t'as plus vraiment de ressources parce que bon, mais ton année est écoulée, mm-hmm. c'est terminé, t'as plus accès à la bourse, c'est pas renouvelable.
Mm. Ça, mais là, t'as les Québécoises, mais là, c'est de recommencer le festival des demandes ouais. de bourse à chaque automne. Là, ça en devient comme quasiment un rituel à faire à chaque automne, perdre à peu près un mois de ta session à travailler sur un projet de sur présenter ton projet de recherche au lieu de travailler dessus. Là.
Mm-hmm. Puis justement, le fait que les bourses à la maîtrise soient de un an seulement, bien, ça crée une pression de « OK, là, je vais clencher ça en un an. » Donc ça, t'es pas dans un état d'esprit où ce que tu dis, je vais faire la meilleure recherche possible, c'est je veux faire ça en un an, pour après ça, passer au doc, pour là, après ça, justement, repartir dans le festival et tout ça. Donc, ça met quand même assez beaucoup de pression que les bourses soient pas très représentatives de la durée réelle des études.
Parlant encore d'argent, il y a une revendication, Jay, que tu pourrais nous parler, puis ensuite, peut-être, vous pourriez rebondir là-dessus sur les frais indirects de recherche. On en parle un peu moins, mais c'est aussi une question d'argent. Là.
Oui, les frais indirects de recherche, c'est des frais qui sont... que c'est les établissements universitaires, toutefois, qui assument, puisque quand que des centres de recherche reçoivent des subventions fédérales, souvent, il faut qu'ils renouvellent l'équipement, il faut qu'il y ait des frais administratifs. Donc, il y a beaucoup de frais qui sont reliés en dehors de la recherche. Ça s'appelle des frais indirects de recherche. Et en ce moment, ces frais-là sont subventionnés par le fédéral avec le fonds de soutien à la recherche, mais sont subventionnés juste à la hauteur de 20 %. Donc, le reste, ils vont être grugés par la bourse fédérale qui est pour le centre de recherche. Donc, quand on dit qu'on donne une bourse, par exemple, de 200 000 pour un centre de recherche, c'est pas vrai parce qu'il faut qu'il assume 80 % des frais indirects de recherche. Donc, on demande une bonification de ce financement-là, donc un réinvestissement pour pouvoir payer ces frais-là.
Est-ce qu'il y en a d'entre vous trois qui travaillent dans un centre de recherche ou qui sont affiliés à un centre de recherche, peut-être plus de ton côté, Pascal?
Moi, je suis associée avec le Centre de recherche sur les enjeux économiques des politiques publiques, le CREEP. C'est sûr qu'en économie, on n'est pas un secteur de recherche qui demande beaucoup d'installations physiques, mais on a quand même là, des superordinateurs, des agents de bureau qui s'occupent plus du côté logistique. C'est sûr qu'il y a des freins directs, il y en a partout. Puis ça demande souvent une certaine jonglerie là, avec nos directeurs, directrices de recherche pour voir un peu comment on alloue les fonds, quand il faut se déplacer pour des congrès, ce genre de choses.
Est-ce que ça peut apporter, là, peut-être que je vais dans une boîte de Pandore, mais de la compétition ou moi, j'ai besoin de cette ressource-là maintenant, moi aussi, pour finir, parce que là, tu sais, ça peut-tu vous amener dans des situations où vous n'avez pas le goût de vous positionner, évidemment, là, entre les étudiants, peut-être? Là, je lance des choses, peut-être qu'ils ne se passent pas, là. Ça se passe super bien.
Je pense que tu essaies d'écrire un roman d'action.
Essaie de faire de la bisbille.
Ah oui, c'est ça. mais du moins aussi, quand les ressources sont limitées, en fait, c'est un peu le point où je veux y aller. Quand les ressources sont limitées aussi, ça apporte cette espèce de sans avoir un sentiment de confrontation, mais de compétition, j'ai l'impression aussi, là, entre les étudiants qui. On veut pas ça. Hein?
Mais si je peux rebondir là-dessus, moi aussi, je suis membre de quelques groupes chers de recherche. C'est sûr qu'en philosophie, on n'a pas beaucoup besoin d'éprouvettes dans nos laboratoires. On n'a pas beaucoup de sarraux à renouveler. C'est ça. Mais c'est ça. Donc, les fonds de recherche vont surtout aller pour donner des bourses étudiantes, des bourses de mobilité pour aller à des colloques, organiser des colloques étudiants ou des choses comme ça. Sauf que les ressources étant limitées, souvent, on tombe en compétition aussi avec nos collègues chercheurs. Puis là, évidemment, pour une bourse, il faut une lettre de recommandation de votre directeur ou de votre directrice. Souvent, c'est elle ou lui qui encadre tout le monde qui demande la bourse. Donc là, ça met tout le monde dans des drôles de positions où on se bat un peu pour des fonds de tiroir pour essayer de se déplacer parce que ça a l'air de rien, mais en recherche... ce qui est important aussi, c'est pas juste de créer du savoir, mais c'est aller le partager, c'est aller se former en allant rencontrer d'autres chercheurs, que ce soit des chercheurs étudiants ou des chercheurs, des professeurs. Puis à Québec, on est une seule université. Donc, juste se déplacer à Montréal, ça peut être très pertinent dans le cadre de nos recherches pour rencontrer d'autres personnes qui sont plus ou moins dans le même domaine de recherche que nous, mais comme élargir un peu nos sujets de connaissances, développer aussi des partenariats interuniversitaires. Donc, tout cet argent-là peut être quand même vraiment important dans des groupes de recherche comme les nôtres, mais c'est plus c'est réduit, plus les étudiants sont en compétition aussi les uns avec les autres.
Oui, puis à la maîtrise, en plus, tu essaies d'avoir le plus de visibilité possible en préparant l'avenir. Si tu veux te lancer en recherche, tu n'as pas le choix nécessairement de participer à ces colloques-là, de publier le plus possible. Mais si tout le monde veut le faire, à un moment donné, il y a une quantité limitée de revues étudiantes aussi.
On va prendre une petite pause, je pense. On va revenir après. On va continuer de parler de recherche un peu. Aussi, vous annoncez qu'est-ce qui s'en vient cette semaine du côté de l'Allier. On va y aller en musique. Jean-Michel Blais, je ne sais pas si vous connaissez.
Ça ressemble à du Metallica, ça.
pianiste que j'adore. On écoute ça tout de suite. Retour dans Question de savoir, votre émission sur les deuxième et troisième cycles à l'Université Laval. Et là, ben, mon Dieu, on a pris une petite pause de 2 minutes, puis on était parti sur d'autres sujets, donc il fallait revenir. On avait fait le tour un peu de plusieurs de nos sujets, de notre cahier de revendication, de notre campagne Vote sans perdre connaissance au niveau de la recherche, puis on voulait revenir sur celui dont on n'a pas parlé, qui parle de l'insertion, en fait, à l'emploi des titulaires de doctorat. On est un petit peu plus précis là-dessus parce qu'en plus, nous, il y a un mémoire à l'Allier qui s'en vient là-dessus spécifiquement. Mais comme on a 3 candidates à la maîtrise, ben, il y a quand même des enjeux autour de ça. Karine, je te laisserai commencer à t'exprimer là-dessus, peut-être.
Oui, mais en littérature et probablement en philosophie aussi, un des principaux enjeux, en fait, c'est quand tu commences une maîtrise en littérature, c'est bien souvent avec l'objectif d'enseigner dans les cégeps. Or, il existe une autre option qui est une option de plus en plus populaire auprès des ressources humaines des différents cégeps, c'est le DESS. Donc, tu te ramasses avec une double compétition. Non seulement c'est plus difficile de poursuivre ta recherche pour toutes les raisons qu'on a évoquées au départ, plutôt, mais aussi, en plus, à la fin, tu n'es jamais garanti d'avoir vraiment un emploi. Et surtout, on te met une pression étrange où il faudrait que ton savoir soit monnayable. C'est-à-dire que tu n'as aucune valeur si tu n'es pas capable de rentrer sur le marché du travail directement après ton diplôme. Mm-hmm. Puis, c'est pour ça que votre enjeu...
Revendication, oui.
Votre revendication me semble absolument pertinente. Bon, elle concerne certainement les doctorants, mais... aussi les étudiants à la maîtrise aussi, parce qu'on se ramasse un peu coincé après la maîtrise.
Mais moi, cette revendication-là aussi m'interpelle beaucoup parce que je m'enligne l'année prochaine pour commencer un doctorat. Puis tout le monde s'attend, quand tu fais un doctorat en philosophie, évidemment, tu veux enseigner la philosophie plus tard dans une université. Tout le monde m'imagine déjà avec un salon plein de livres qui déborde, puis un veston en tweed. Puis c'est pas que ça m'intéresse pas, puis peut-être que probablement
un
que j'ai fini
de Platon.
mais peut-être aussi que je vais pas finir comme ça, ne serait-ce que parce qu'il y a pas tant de postes de prof non plus disponibles. Il faut que le poste s'ouvre au moment où je vais finir mon doctorat, puis un doctorat on sait quand on le commence, on ne sait pas quand on le finit aussi. Mm-hmm. Donc, tout ça fait que ça serait intéressant. Je trouve ça vraiment particulièrement intéressant de vouloir aider les doctorants, ou bien, en fait les docteurs, à pouvoir s'intégrer sur le marché du travail. Ouais. Et puis surtout des gens qui ont des formations comme Karine en littérature ou moi en philosophie, qu'on est capable d'apporter quelque chose à la société aussi, mm-hmm. autre que de l'enseignement, de la recherche, même si en ce moment c'est à ça qu'on se dédie, tu sais.
Mm-hmm. Ouais, c'est ce qui arrive souvent dans certains domaines aussi, c'est qu'on a l'impression que ce savoir-là ne sert qu'à s'auto-alimenter. Mm-hmm.
Exactement, alors mais que c'est pas le cas. C'est absolument pas le cas.
Surtout pour quelqu'un comme moi qui est en éthique et philosophie politique, je pense qu'il y a des places mm-hmm. pour nous amener sur le marché du travail, mais je sais que, ne serait-ce que pour la fonction publique, je rentre dans aucune catégorie parce que je suis trop dans mes nuages pour eux, j'imagine, mm-hmm. comparativement à quelqu'un qui aurait fait socio Sciences Po. Mm-hmm.
T'avais-tu quelque chose à ajouter là-dessus, Pascal?
Ben moi, je suis vraiment chanceuse parce que l'économie, c'est un domaine qui est extrêmement en demande sur le mm-hmm. marché du travail, autant les étudiants et étudiantes qui finissent avec une maîtrise que ceux que les docteurs récemment gradués ont tous ou à peu près des emplois dans leur domaine. Je pense qu'il faut nuancer les choses puis dire que c'est pas tous les domaines d'études qui se butent à une mm-hmm. incompatibilité avec le marché du travail. Je me considère super chanceuse d'avoir eu un stage au cours de ma maîtrise, d'avoir des opportunités de travail qui s'offrent par la suite. Je pense qu'il faut relativiser puis... Mm-hmm. Mais je compatis complètement avec celles qui sont dans des domaines où l'insertion avec le marché du travail est pas encore arrimée. Là.
Ouais.
En fait, je pense que c'est la différence entre le savoir fondamental puis le savoir un peu plus appliqué.
Mm-hmm.
C'est que le savoir fondamental, les gens réalisent pas qu'on forme beaucoup de cerveaux et des connaissances, mais ça a pas vraiment d'application pratique dans la vie de tous les jours et c'est correct.
Mm-hmm.
C'est ça qui est important.
Oui, je pense qu'il y a du travail qui est fait de plus en plus. On essaie, je pense, aussi à plusieurs niveaux. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus au niveau fédéral, Jay?
Ben, c'est sûr que ça, c'est une revendication qu'on a qui est à tous les ordres de gouvernement et oui. même envers l'Université Laval aussi, mm-hmm. d'un peu adapter la sensibilisation à c'est quoi faire un doctorat et qu'est-ce que ça implique. Tu veux devenir prof? Ben OK, oui, mais pense-y que c'est juste 18% des titulaires de doctorat qui sont profs d'université. Donc, réfléchissez peut-être une deuxième fois. Puis, un peu de aussi valoriser le marché du travail au lieu de comment, tu sais, il n'y a pas grand monde qui vont là, tu sais, reste dans le vase clos du monde académique. Donc, tu sais, de créer des programmes, de subventionner des programmes. Notre revendication est assez large. On laisse la liberté parce que c'est surtout pour sensibiliser sur l'enjeu, mais mm-hmm. de créer des programmes d'insertion à l'emploi, là, ça pourrait être quelque chose de très bien.
Ben, puis par exemple, en tout cas, tu l'as nommé un peu, Cécile, là, je brainstorm. Non, mais par exemple, les différents ordres de gouvernement pourraient, par exemple, intégrer dans leur fonction publique des emplois qui demandent des doctorants dans des domaines où c'est un petit peu moins évident qu'à l'économie, évidemment, où là, ben là, on peut trouver quelque chose. Hey, ça fait pas mal le tour de notre émission. Il reste quelques minutes pour nous faire des petites annonces. Merci beaucoup. Je veux renommer vos noms. Je veux juste pas faire d'erreur. Je prends ma petite feuille. Karine Denis, qui est en études littéraires. Merci beaucoup d'avoir été là.
De rien.
Cécile Gagnon en philosophie. Merci.
Merci.
Et Pascal Lavaux-Allard, qui est en économie.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir été là puis de jaser avec nous. Je vous rappelle que dans nos prochaines émissions, on va parler des autres thématiques de notre campagne Votre sans perdre connaissance. La semaine prochaine, on parlera d'environnement. D'ailleurs, jeudi, là, on commence à vous présenter les revendications qui sont un peu plus en lien avec l'environnement. Et cette semaine, Jay, grosse semaine d'activités qui ont un lien ou non avec les élections, justement.
Tout à fait. Ce soir, en fait, à la salle Hydro-Québec, on a un débat sur l'éducation supérieure qu'on organise avec nos partenaires du premier cycle à CADEL. Donc, venez voir ça. Il y a pas mal de candidats qui sont là pour débattre, donc ça devrait être très intéressant. Demain, mercredi, nous, à l'Allier, on tient notre forum, donc c'est nos consultations. Vous pouvez venir nous voir. C'est à la salle d'apprentissage actif de la bibliothèque à partir de 15h30. Et aussi, on va parler d'environnement dans les prochaines émissions, mais vendredi, on va agir. Donc, c'est la manifestation pour le climat du 27 septembre. Donc, venez avec nous dans la rue, comme dans le bon vieux temps.
Arrête-moi, Louis-Philippe, je dis n'importe quoi.
Mais si vous voulez nous trouver lors de la manifestation, on va avoir le drapeau de l'Allier qui est noir avec le logo blanc et rouge dessus. Il est énorme. Donc,
on est des pirates du savoir.
On est des pirates du savoir. Non, mais trouvez-nous. Il y a une délégation de l'Allier, puis en dessous, en tout cas, tous les employés puis les membres de l'exécutif qui seront là, on a des vestes rouges, là, super voyantes. Donc, vous allez pouvoir nous trouver. Le rendez-vous est à 11h au Musée national des Beaux-Arts, mais on peut... Il y a un autre rassemblement à midi à l'Assemblée nationale. Donc, il y a comme une double manifestation. Un petit bout, puis là, on arrête devant l'Assemblée nationale et ensuite, on continue la marche. Donc, soyez là en grand nombre. Je suis certain, en fait, que vous allez être là en grand nombre pour, justement, cette prochaine thématique qui est l'environnement qu'on traitera la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était Question de savoir, votre émission sur les étudiants et étudiantes de deuxième et troisième cycle à l'Université Laval.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Tu aimes la politique et entendre du monde chialer? Ne manque pas la nouvelle émission sur les ondes de Chiz 94.3, l'affaire et politique.
Au menu, une foule d'invités questionnés sans filtre, des chroniques divertissantes, nouveaux genres, et le tout offert par une équipe de passionnés politiques.
C'est un rendez-vous tous les lundis matins de 9h à 11h de bonne et de mauvaise humeur sur les ondes de Chiz 94.3.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Tu t'intéresses à la scène musicale actuelle? Tu veux découvrir